Tiens, belle maman, puisque c'est l'heure et qu'on est chez toi, ça t'ennuierait qu'on écoute l'AJT du local? C'est sur l'autre radio.
Ah ben non, au contraire, j'écoute tous les jours.
J'aurais eu des tas de choses à te dire, à faire encore avec toi, et j'ai tout ça encore en tête maintenant que tu n'es plus là. Vous avez sans doute affronté ce moment déjà dans votre vie et peut-être vous êtes-vous senti bien seul. Mon invité d'aujourd'hui est Doula et vous propose une rencontre demain à Château-Gontier au bistrot pour échanger collectivement sur ce sujet, celui du deuil. À mes côtés aujourd'hui, Marion Rousseau. Marion, bonjour.
Bonjour.
Vous écoutez l'AJT du local, à mes côtés également Lucie. On t'écoute tout à l'heure dans l'actu en bref. Bonjour à toi Lucie. L'émission va continuer dans un coin de verdure à Ruillé-Froidfond dans l'atelier de Anne-Marie Aubois qui a créé Tour de Mode. Après une reconversion professionnelle à 55 ans, elle devient chapelière modiste. Elle nous raconte son parcours, sa passion dans un reportage en deux parties et la première est aujourd'hui. Ils sont engagés mais aussi chroniqueurs dans cette émission. Je vous parle de la Ligue des droits de l'homme et c'est Alain Voisin, notre chroniqueur du jour, que l'on retrouve à la fin de l'AJT du local. Et donc, je vous le disais, il y a quelques instants, Marion Rousseau est avec nous. Marion, vous êtes doula. Vous serez demain avec Angélique à la rencontre des gens au bistrot à Château-Gontier, demain donc à 17h30 pour aborder la question du deuil. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer peut-être la différence entre une doula et une tanadoula ?
Oui, merci. Alors, c'est vrai que les doulas, voilà, c'est une profession qui est en train de se développer de plus en plus en France et on associe souvent les doulas à l'accompagnement plutôt dans la période périnatale, donc grossesse, naissance et puis postnatale. Mais il y a aussi des doulas qui accompagnent tous les moments de la vie jusqu'à la fin de vie et le deuil. Et c'est mon cas et c'est aussi le cas d'Angélique qui, elle, est tanadoula. Donc spécifiquement, elle accompagne la fin de vie et le deuil. Elle a été formée spécifiquement pour accompagner cette partie, ce moment de la vie.
Et alors pourquoi pour vous c'est important d'organiser cette rencontre sur le deuil? Est-ce que c'est un sujet qui est peut-être trop peu abordé ouvertement aujourd'hui?
Oui, je pense que c'est important d'offrir un espace de parole pour les personnes qui traversent le deuil. A priori, tout le monde va être confronté à un moment donné de sa vie à cette situation. Et j'ai la sensation que dans notre société, c'est un sujet qui est tabou. C'est compliqué de l'aborder, c'est compliqué de pouvoir partager les émotions qui sont traversées à ce moment-là. Et donc voilà, ça nous paraissait, à Angélique et moi, important d'offrir cet espace de parole aux personnes qui puissent venir exprimer et partager ce qu'elles éprouvent en toute confiance.
Avec vos expériences, votre expérience du deuil en tant que doula, quelles sont les choses peut-être sur lesquelles on aurait davantage besoin d'être accompagné aujourd'hui dans le quotidien?
Comme je le disais, c'est principalement sur les émotions qui peuvent être traversées. Il y a aussi évidemment tout l'aspect logistique parce qu'on se retrouve obligé de faire face à une situation complexe aussi d'un point de vue logistique et c'est compliqué de gérer à la fois ces aspects-là plus les émotions qui viennent s'ajouter. Voilà, nous en tant que doula, on est là pour accompagner sur l'aspect émotionnel principalement, mais aussi ça peut être de l'appui logistique.
Peut-être qu'il y a des choses que l'on ressent qu'on n'ose pas, qu'on n'arrive pas à cadrer dans notre esprit et le fait d'échanger, de dire les choses à voix haute, des fois ça nous aide à resituer le sentiment que l'on ressent à ce moment-là.
Oui, et puis aussi de pouvoir éprouver que c'est normal. Que c'est normal ce qu'on traverse et que c'est ok et que c'est bienvenu et c'est plus facile de traverser en étant accueilli, entendu. Voilà.
Est-ce qu'il est important pour vous de se tourner vers un professionnel pour être accompagné dans ce moment difficile? Parce que certes il y a nos proches, mais un retour extérieur est peut-être essentiel pour...
Alors sans doute, évidemment c'est toujours... Quand on se retrouve dans la posture d'un proche qui accompagne une personne en deuil, il y a cet élan d'être là et d'essayer de faire le mieux qu'on peut. Mais parfois, il peut y avoir de la maladresse. Et voilà, en tant que professionnel, on a un cadre qui nous permet d'être dans le non-jugement et dans l'écoute bienveillante. Et c'est pas toujours évident quand il y a un lien d'affect d'avoir cette posture-là, en fait.
Oui, le professionnel permet d'avoir une certaine distance, peut-être.
Oui, c'est ça.
En tant que proche, justement, on vient d'en parler, comment peut-être on peut accompagner au mieux un de nos proches qui le vivrait de près? Quelle place on peut prendre?
Alors, à ça, je voudrais répondre que chaque histoire est tellement singulière et unique que c'est compliqué de savoir. Et de toute façon, les doulas ne donnent pas tellement de conseils. Il ne s'agit pas vraiment de conseiller, il s'agit surtout d'être là et d'accueillir ce qui est déposé. Et voilà, de faire du mieux qu'on peut, en fait.
Et alors, dans une vie, on rencontre différentes formes de deuil, parfois même des personnes plus jeunes, de manière inattendue. Il y a sans doute un travail plus spécifique à faire pour se reconstruire quand on rencontre ça dans notre vie.
Oui, sans aucun doute. Et ça me donne envie de rembobiner par rapport à votre question précédente sur le fait de pouvoir entrer en contact avec des professionnels quand on traverse un deuil. Et entre guillemets, le cadre normal du deuil et qui veut dire une souffrance à différentes échelles en fonction des personnes, en fonction des histoires. Et à quel moment est-ce qu'en fait on estime qu'on a besoin d'être accompagné par quelqu'un? À quel moment on estime que c'est nécessaire de faire appel à quelqu'un de professionnel? Et quel professionnel? Est-ce que nous, en tant que doula, on peut accompagner tous les cas? Ben, peut-être pas. Peut-être que des fois, c'est plutôt le psychologue qu'il faudra aller voir, parce que notre domaine de compétences a des limites. Et donc voilà, c'est aussi ça notre travail, c'est de pouvoir évaluer jusqu'à quel point on peut accompagner cette personne qui vit cette histoire singulière, parce qu'elles le sont toutes. Et donc, en fait, que ce soit un deuil périnatal ou que ce soit la perte d'un parent âgé, la souffrance, elle est unique et elle est singulière comme tous les deuils le sont.
En fonction de l'histoire de chacun aussi, sans
oui.
doute.
Oui, bien sûr.
Le travail est différent à faire. Il y a différentes étapes dans le deuil, différents moments. On ne sera sans doute pas accompagné de la même manière. Il y a un travail différent à faire.
Oui, et ça, c'est un point sur lequel ça me paraît important d'insister. J'en avais parlé justement au premier Café Deuil. On avait organisé un Café Deuil au mois de novembre déjà. Et j'avais insisté sur cette notion que on parle beaucoup des étapes du deuil. Et je voudrais un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière par rapport à ça, parce que ça évidemment, ça peut aider des personnes qui trouveront peut-être des points de repère et pourront se dire « Ah ok, j'en suis là dans les étapes du deuil ». Mais en fait, il n'y a pas de... Ça reste un support qui peut soutenir, mais qui peut aussi être enfermant pour les personnes qui ne se retrouvent pas dans ces étapes-là, parce qu'elles ne se dérouleraient pas dans l'ordre attendu ou dans une temporalité attendue. En fait, ça n'existe pas, tout ça. C'est-à-dire que, comme je le disais, chaque deuil est unique, et donc il y a des personnes qui vont vivre les étapes dans l'ordre ou dans le désordre, dans une temporalité longue ou courte, et c'est OK. En fait, chacun vit son deuil à sa façon, et c'est OK. Voilà.
Il n'y a pas de schéma
de normes. Il n'y a pas de normes.
Et comment se passe donc l'accompagnement d'une doula lors d'un deuil? Quelle forme ça prend? Donc on prend contact avec vous. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Oui, alors si c'est dans le cadre d'un accompagnement individuel, en général, il y a beaucoup d'écoute. C'est vraiment la majeure partie de l'entretien. C'est un très gros, grand temps d'écoute et d'accueil. La doula, elle accueille beaucoup et elle est dans la bienveillance, dans le non-jugement, avec cette notion que la personne sait ce qui est bon pour elle et l'idée de venir la soutenir pour qu'elle puisse trouver la confiance en elle qui va lui permettre d'avancer et dans le processus qu'elle est en train de traverser.
Je pense à ça comme ça, mais c'est vrai que des fois dans ces moments-là, malheureusement, ça nous tombe parfois dessus de manière inattendue. Est-ce que la doula se rend à domicile ou est-ce que c'est dans un cabinet?
C'est toujours au domicile de la personne.
C'est important de préciser, c'est vrai que oui. C'est différent, c'est aussi oui. Un autre cadre. Oui. Vous accompagnez donc évidemment des adultes, mais je me pose la question, est-ce que vous accompagnez également des enfants?
Oui, ça m'est arrivé d'accompagner une petite fille qui avait 10 ans et qui... avait été confrontée au deuil pour la première fois de sa vie et sa maman ne savait pas trop bien comment l'accompagner. Donc oui, ça nous arrive aussi d'accompagner les enfants. Ouais.
Donc quand on est parent, il faut penser aussi à l'enfant qui peut faire partie de la famille et se dire que si nous aussi on souffre, l'enfant aussi a peut-être besoin lui aussi de cet espace de parole et c'est peut-être plus difficile pour un enfant d'exprimer justement ces émotions-là quand tout le cercle familial est aussi imbibé de cette souffrance-là.
Oui, tout à fait, oui. Mmh.
Vous organisez donc demain une rencontre au bistrot de Château-Gontier. Est-ce que c'est éventuellement donc l'opportunité pour des personnes qui vivraient le deuil d'échanger ensemble sur ce qu'ils ressentent? Est-ce que ce croisement de témoignages peut aider justement toutes ces personnes qui viendront à votre rencontre?
Oui, je pense que c'est là l'intérêt de proposer un temps collectif, c'est de se sentir ensemble dans la traversée de quelque chose de difficile, qui sera singulier parce que chacun a son histoire et chacun a son rapport avec la personne qu'il ou elle a perdue. Et donc, on se retrouve ensemble à simplement se sentir ensemble. Et c'est énorme, en fait. Ouais.
L'idée, c'est de se rencontrer, de raconter son ressenti, vider quelque chose, et puis tous ensemble se nourrir de choses qui peuvent nous aider, ou peut-être juste le fait de mettre des mots des fois.
Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment d'offrir un espace de parole, pas tant de donner des outils. On donne un petit peu d'informations parce qu'on va avoir une bibliographie, on va avoir des contacts de professionnels. Mais l'idée, c'est surtout d'offrir l'espace de parole pour que chacun se sente entendu et accueilli dans ce qu'il exprime.
L'histoire des autres fait aussi parfois écho à la nôtre et des fois, c'est réconfortant. Ça enlève ce sentiment de solitude peut-être même.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que vous organisez d'autres rencontres sur d'autres thématiques en tant que doula, Marion?
Oui, donc moi, comme je disais en début d'entretien, j'accompagne vraiment tous les moments de la vie. Donc j'accompagne en individuel aussi des femmes qui sont enceintes et en postpartum. Et puis je propose aussi des temps collectifs qu'on appelle des tentes rouges. Donc ça, c'est un vendredi par mois au lieu dit Majdaillé, à Rueil-Froidfond, au Grenier. Et la prochaine tente rouge, c'est ce vendredi-là à 19h30. C'est un espace de parole aussi pour les femmes, pour aller explorer la féminité. Et puis, donc des entretiens, des accompagnements individuels. Et puis, je propose aussi le rituel Rebozo, qui est un rituel d'inspiration mexicaine qui est traditionnellement pratiqué en postpartum pour venir redonner de la contenance au corps qui vient de donner naissance et donc notamment resserrer le bassin. C'est un rituel maintenant qui a été un petit peu entre guillemets détourné, c'est-à-dire qu'il est pratiqué en dehors de cette fameuse période de postpartum. Ça peut être pratiqué à n'importe quel moment de la vie en dehors de la grossesse. Pour marquer aussi un passage. Donc c'est un rituel qui est basé sur une intention qui est posée. Et on utilise un châle, le rebozo, en fait, c'est le nom du châle qui a un tissage vraiment particulier. Et ça, je le pratique avec Sophie, l'enfant, qui est praticienne bien-être, qui fait du massage aussi. Donc c'est deux femmes pour une, et c'est un temps de chouchoutage de 3 heures.
Voilà. Mais c'est merveilleux. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver, justement, si on souhaite prendre contact avec vous, Marion?
Eh bien, je suis sur l'annuaire des doulas de France. J'en ai pas parlé, mais ça me paraît important de le faire. Donc, l'association Doulas de France, c'est l'association la plus représentative au niveau national dont je fais partie. Et je suis donc sur l'annuaire des doulas de France. Et puis, on peut me retrouver aussi sur Facebook. C'est ma doula Marion Rousseau, avec un X.
Et alors, je n'oublie pas de vous demander si on souhaite participer à la rencontre de demain. Comment on procède? Est-ce qu'il faut réserver?
Oui, vous pouvez appeler, je peux donner un numéro.
Bien sûr.
Donc c'est le 06 49 64 83 09. Voilà, pour le café d'œil. Et puis, c'est possible aussi de s'inscrire pour la tente rouge, qui est une toute autre proposition.
Au même numéro,
Il reste des places. Alors non, ce ne sera pas au même numéro, parce que ça, c'est le numéro d'Angélique.
D'accord.
Et pour la tente rouge, ce sera plutôt moi qu'il faudra contacter, mais on peut trouver le lien par le site du Grenier.
Super, écoutez, merci Marion d'avoir été avec nous. Je rappelle le rendez-vous, donc c'est demain au bistrot à Château-Gontier à 17h30. Merci d'avoir été avec nous. Dans 2 minutes, Lucie, c'est l'actu en bref. Mais avant, pour éviter le coup de mou qui arrive souvent à cette heure, on met un son qui fait du bien, vous risquez d'en redemander d'ailleurs. Point trop n'en faut, pourrais-je vous dire. Profitons déjà d'un titre, un seul morceau, et j'ai choisi pour vous Bad Love du groupe Dead. Allez, c'est parti pour le petit coup d'œil sur l'actualité. En bref, mercredi dernier, Marie-Josée Demey, directrice du centre hospitalier local du Sud-Ouest Mayennais, a présenté à l'occasion de la cérémonie des vœux 2024 les différentes perspectives à attendre de cette nouvelle année. Entre autres, elle a évoqué, je cite, « un nouveau projet d'établissement qui prendra en compte les missions d'établissement de proximité du groupement hospitalier de territoire ». Fin de citation. À noter que le 1er février, 20 lits de médecine et SMR ont également été réouverts à Renazé. Et parmi les autres mesures, il y a également un plan de titularisation pour 20 à 25 postes à l'horizon du deuxième semestre. Tant qu'on est sur le sujet des services publics, si je vous dis France Service, ça devrait vous parler, chers auditeuristes. Petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui ont des doutes, c'est le nouveau lieu unique pour toutes les démarches administratives. À Saint-Frimbaud-de-Prières, une antenne sera testée grandeur nature le jeudi 22 février, et s'il y a du monde, elle sera renouvelée. Le rendez-vous est donc donné jeudi 22 février, de 9h à midi, à la mairie de la commune de Saint-Frimbaud-de-Prières. On prend les transports à présent, ou presque. Le chantier de la ligne de fret ferroviaire entre Château-Gontier et Sablé-sur-Sarthe avance bien. Il avait été entamé en septembre 2023 pour un budget de 33 millions d'euros. Et ça y est, ce week-end, un premier train de ballast est entré en gare de Château-Gontier. Si on retourne dans le nord du département, à Goron cette fois, soyez prudents et prudentes, un mur situé impasse de la fontaine Saint-Martin menace de s'effondrer. Un expert a été mandaté pour évaluer la dangerosité et en attendant, la voie est fermée à la circulation. Allez, pour finir, il y a eu plein d'actu sportif ce week-end, alors c'est parti pour un petit coup d'œil. Et on commence avec du rugby, le derby entre Château-Gontier et Mayenne qui a eu lieu samedi. Cette fois-ci, c'est Château-Gontier qui l'a remporté à domicile avec un très beau 31-17, ce qui le place d'ailleurs en deuxième position de la Régionale 3. Côté haltérophilie, on part en National 1 et c'est Évron qui a pris la troisième place de sa triangulaire ce week-end avec un très beau score pour le club à 1482 points au compteur. Et puis pour finir, on va du côté des athlètes, la troisième édition de la course Run and Bike à Mayenne s'est tenue ce dimanche 4 février et a rassemblé 184 sportifs. C'est une course qui se fait en binôme, à vélo et à pied, ce qui faisait donc 92 équipes. Et côté météo, vous l'avez remarqué, le soleil n'aura pas duré. Cet après-midi, c'est pluie éparse sur tout le territoire avec des températures à 9-10 degrés. Ce soir, moins de pluie, mais toujours autant de nuages, voire un peu de brume comme à Loiron par exemple, et des températures qui restent incroyablement stables avec des 8-9 degrés jusque dans la nuit. Demain, ça ne change pas beaucoup, c'est nuageux le matin, des pluies éparses un peu partout l'après-midi et de nouveau très nuageux le soir. Et niveau température, attention, tenez-vous bien, on est à 9 degrés le matin et l'après-midi on monte jusqu'à 11-12 degrés, voire 13 degrés dans le sud du département, comme à Quelaine-Saint-Gaud. Le soir et la nuit, on reste environ à 11 degrés, avec quelques pluies éparses dans le nord du département, comme à Mayenne. Elisa, elle se dit qu'à ce rythme-là, le fameux Blue Monday va devenir un Blue February.
Je ne dirai plus jamais que je n'ai pas une tête à chapeau. Oui, après quelques essayages, je sais ce qu'il me faut. J'ai surtout découvert un très beau parcours et quelqu'un de passionné et sensible en rencontrant Anne-Marie Aubois, chapelière modiste à Ruillé-Froidfond. Elle m'a raconté son histoire. Je vous la partage avec vous dans une première partie aujourd'hui. La suite sera demain. Écoutez, quand un rêve d'enfant revient à nous quand on est grand.
Je suis Anne-Marie Aubois, j'ai 62 ans. Je suis chapelière modiste depuis peu de temps, depuis 2019. J'ai démarré en avril 2019. Et avant, j'étais informaticienne dans un grand groupe agroalimentaire. Et je suis très fière des 35 ans que j'ai passés dans ce cadre-là. Et maintenant, voilà, j'exerce cette activité de chapelière modiste. Donc, c'est un métier d'art.
Je rencontre Anne-Marie dans son atelier. Elle me raconte son parcours en commençant par le début. Parce que tout commence à ce moment-là. Au moment de son licenciement, dans ce cadre-là, on lui propose un dispositif d'accompagnement pour reconstruire son projet de retour à l'emploi. Une conseillère l'accompagne et prend le temps pour la recherche de son nouveau projet.
Grâce à cette personne qui m'a accompagnée, j'ai réussi à retrouver dans mes plus profonds souvenirs l'amour du chapeau et l'amour du travail artisanal. Et c'est comme ça que j'ai réussi à identifier ce super beau projet aujourd'hui.
Et alors, ça commence avec un rêve d'enfant, Anne-Marie.
Ouais, un rêve dont j'ai parlé à personne. En fait, quand je sortais de l'école et que qu'on était un petit peu en avance, pour ne pas rentrer trop tard à la maison, je passais par le centre-ville de Château-Gontier. Et il y avait une modiste qui se trouve à peu près où se trouve Goupy-Capret aujourd'hui. Goupy-Capret et Stracy. Et c'était à ce niveau-là qu'il y avait, que la modiste était installée. Et moi, je passais quelques minutes en revenant de l'école à contempler sa vitrine. Je ne voyais rien du tout parce que c'était tout assez noir derrière. Mais en fait, j'étais empreint de beaucoup de rêves en disant « elle fait peut-être comme ci, comme ça ». Enfin voilà, je voyais quelques pièces devant qu'elle exposait, mais on ne voyait pas grand-chose. Avec toutes les interrogations que ça suggérait, j'ai refermé cette petite boîte en n'en parlant jamais à personne, ni mes parents, ni mes copines d'école, ni mes frères et sœurs. Enfin voilà, je suis issue d'une famille modeste et des familles comme la mienne, on n'allait pas se chapeauter chez cette modiste-là, ça aurait coûté trop cher. Donc voilà. Et donc j'ai refermé cette petite boîte inconsciemment et qui s'est rouverte à l'âge de 55 ans. Je vous assure que ça donne des frissons.
Anne-Marie a donc suivi deux formations, une de modiste à Étretat avec Karine Niedermann et une formation de styliste en accessoires de mode sur 2 ans.
Et ça a été une formation extrêmement stimulante, qui faisait que je travaillais beaucoup plus que dans mon métier d'informaticienne. Hein. Je travaillais y compris le week-end. Mais là, j'ai découvert vraiment une vraie passion.
Et donc, Anne-Marie, vous me disiez que ce qui vous porte énormément dans ce métier de chapelière modiste, c'est la relation et le contact avec les gens que vous rencontrez.
Oui, en fait, la personne, quand elle vient pour la création de son accessoire de mode, en fait, on laisse libre cours sur le plan créatif. On s'échappe un petit peu du quotidien. Bon, ma clientèle, elle est sur le mariage, enfin, la cérémonie, hein, pour coiffer ou les mariés ou les invités. Enfin voilà, c'est un petit chapeau, ça rend une tenue très élégante. Ça peut être des chapeaux à usage pour se protéger du soleil pour l'été ou l'hiver pour se protéger du froid. Mais aussi, ça peut être dans des contextes un petit peu moins drôles. Ça peut être suite à des petits problèmes de peau, voilà, plus ou moins graves, mais avoir vraiment besoin de se protéger le crâne. Voilà, moi, je me suis découvert une relation avec ma clientèle très, très à l'écoute et très... très sympa, très dans l'empathie avec ma clientèle. Et vraiment, ça laisse des super souvenirs. Enfin, vraiment, c'est des souvenirs, des moments super sympas. C'est important de bien identifier la personnalité. Mais ça, on ne peut pas l'identifier au premier regard. Hein, c'est vraiment en discutant, en comprenant bien le besoin. Hein, quel type de chapeau, pourquoi faire ? Qu'est-ce que vous aimez comme couleur ? Et au fur et à mesure de l'échange, moi, je m'aperçois si la personne est plus exubérante ou plus introvertie. Et là, la création ne sera pas du tout la même. Hein. Quelqu'un qui est un peu volubile, on va dire, on va mettre un peu de volume, on va mettre des choses qui se voient bien, des plumes qui bougent un peu, enfin voilà. Et sinon, si la personne est plus introvertie, on va rester plus sobre sur les couleurs ou les motifs. La petite fantaisie, je vais peut-être la mettre sur l'intérieur, sur la doublure, mais sinon, pour rester assez sobre. J'ai un marié, moi, qui m'avait demandé une casquette sur mesure pour son mariage, et donc du coup, bon, je lui ai fait. Puis après, quand je dis, en termes de doublure, je dis quels sont, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez comme couleur, donc la doublure, il y avait que lui qui la voyait. Hein. Et il me dit, moi j'adore les têtes de mort, alors les têtes de mort mexicaines, ce qui est le motif qui était très tendance encore l'année dernière. J'ai dit, ok. Donc j'ai dit, je vais essayer de trouver un tissu qui correspond, qui se coordonne bien avec le tissu de votre casquette. À la livraison, il était. C'était sa casquette à lui. Enfin voilà, c'était. C'était le plus beau jour de sa vie, son mariage. Mais aussi, il avait fait faire son costume sur mesure et sa casquette aussi. Et là, quand il a vu l'intérieur de la casquette, il dit, mais c'est vraiment la mienne. Hein, Et en l'occurrence, ce monsieur-là, il avait perdu ses cheveux au décès de son père, le décès récent de son père. Et lui, son attente, c'était d'avoir un couvre-chef un peu moderne, mais qui soit associé à son costume.
Nous nous sommes rencontrés dans l'atelier de Tour de Mode, la suite demain. En attendant, je vous laisse découvrir ses créations sur son site internet et sur ses réseaux sociaux, tapez Tour de Mode. Dans quelques instants, c'est la chronique de la Ligue des Droits de l'Homme avec Alain Voisin. Mais avant ça, Lucie, est-ce que tu veux bien nous mettre un peu de musique dans les oreilles ?
Avec plaisir, Margot. Je l'ai découvert ce week-end. Je vous propose de le découvrir ou redécouvrir avec moi. C'est un rappeur anglais, d'ailleurs fun fact. Il tient son nom d'artiste du protagoniste Niko Bellic dans GTA 4, pour les plus gamers d'entre vous. Peut-être que vous avez déjà entendu son single « Who's That, Was That ?» Eh bien, ce n'est pas ce que je vous propose aujourd'hui. Du coup, nous, on écoute un autre morceau, c'est « Rips in Jeans » de Niko B.
No one knows what it's like to be me No pee, just living life as a teen Go downstairs, switching on the TV, TV Got a tin of beans, got rips in jeans, that's me, that's me Shout out to my man at the stand with the good grades I've known him since school days, sparky carpet, yeah he got two trades Works in a bar on Tuesdays, spud with a frown, I'm two-faced Can't trust, I guess it's a new wave, graph on the wall, you should see how the dude sprays T-shirt dirty with food stains I like the moon glaze, made money off beats like Blueface I mint no toothpaste, hear my voice turn up the tunes mate Don't wanna be too late, last night I lost my new chain Kicked their fence, they need a new gate Put a double knot in my shoelace No one knows what it's like to be me No pee, just living life as a teen Go downstairs switching on the TV, TV Got a
got a tin of beans, got rips in jeans, that's me, that's me. Why? Cause my P's hard, don't go spend your advance on Gymshark. Spent all my P in a cheap bar, it's calm, held 4 pints in my left arm. One pub quiz, got a free car, got chapstick, no lip balm. Got a new bike, no kickstart, old lady in the shop, call me sweetheart. I'm never that guy, fifth gear, riding around in a drop top. It's more like, how are you and can I use your personal hotspot? Cause my data ran out last week and I've gotta use my laptop. I'm tryna place a bet on a horse this week in a suit at Ascot. No one knows what it's like to be me, be me. No pee, just living life as a teen, a teen. Go downstairs switching on the TV, TV. Got a tin of beans, got rips in jeans, that's me, that's me. No one knows what it's like to be me, be me. No pee, just living life as a teen, a teen. Go downstairs switching on the TV, TV. Got a tin of beans, got rips in jeans, that's me, that's me.
Écoutez l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Et oui, la chronique du jour, c'est avec la Ligue des droits de l'homme de Laval. Bonjour Alain Voisin, vous avez relevé un événement dans l'actualité récente.
Oui, dans l'actualité récente, j'ai retenu un événement dont les grands médias ne parlent quasiment pas et qui pourtant me semble être important pour le présent et l'avenir des droits humains. Il s'agit d'un accord entre les 27 pays membres de l'Union européenne qui sont finalement tombés unanimement d'accord le 2 février sur un texte visant à réguler l'intelligence artificielle en Europe. Cet accord arrive après 3 années de négociations qui ont fait intervenir la Commission européenne, le Parlement européen et les 27 États membres de l'Union européenne.
Alors pourquoi cet accord est aujourd'hui important et à souligner ?
Alors cet accord vient conclure une négociation âpre entre les États qui devaient se mettre d'accord à l'unanimité. Or, 3 États bloquaient ce texte, l'Allemagne, l'Italie et la France. Allemands et Français faisaient valoir que le texte était trop restrictif dans les usages généraux de l'intelligence artificielle, de l'IA. La France souhaitait qu'il y ait peu de transparence et de surveillance sur les systèmes utilisant l'IA. Et finalement, la France s'est trouvée isolée. Allemands et Italiens acceptent des contrôles et la France a dû se ranger à la position unanime. Or, des usages de l'intelligence artificielle comportent des risques pour les droits humains pour 2 raisons essentielles. D'une part, du fait des discriminations que ces usages induisent, et d'autre part, l'extension sans limite d'une surveillance de masse des citoyens. Ainsi, un des points d'achoppement dans les négociations était la possibilité ou non d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance faciale à distance dans l'espace public. Et puis aussi, disons parmi les dangers de l'intelligence artificielle, la possibilité de créer des contenus de désinformation, des fausses informations, tellement parfaites techniquement qu'elles sont très difficilement détectables. En fait, face aux dangers pour les droits humains et la démocratie, est opposée la liberté d'entreprendre dans une compétition mondiale où la maîtrise de ces technologies est déterminante pour l'avenir. C'est la position que soutenait le gouvernement français, ne pas brider l'innovation dans un environnement très concurrentiel et aux enjeux économiques cruciaux. Or, le choix des Européens est de développer les technologies d'intelligence artificielle mais dans un cadre régulé, afin de maîtriser les risques, qui ne sont pas petits, et cela nécessite de fixer des cadres et de contrôler. C'est pourquoi cette position et cet accord en Europe a une dimension mondiale, car les autres acteurs du développement de l'intelligence artificielle, que sont les Chinois et les Américains, entendent le faire sans régulation. De fait, la puissance de l'Europe affirme le choix de la régulation et pèse suffisamment pour une intelligence artificielle maîtrisée. Le sujet est donc loin d'être refermé et la plus grande vigilance des citoyens est nécessaire. En effet, d'un côté, il y a des forces économiques qui voient dans l'intelligence artificielle des potentiels de profit et de l'autre, des citoyens qui alertent et agissent pour le respect des droits humains.
L'intervention des citoyens est nécessaire alors ?
Oui, elle est indispensable et elle est utile et pèse réellement sur les choix. Ainsi, dans le débat européen depuis 3 ans, les ONG et les associations, dont la LDH France, ont formé une coalition européenne, The European Digital Right, qui regroupe plus de 100 organismes des sociétés civiles des pays européens, travaille sur le sujet, qui est un sujet techniquement complexe, en s'appuyant sur des compétences dans tous les pays, afin de promouvoir les droits de l'homme et pour cela un encadrement du développement de l'intelligence artificielle. Et ce travail, cette coordination à l'échelle européenne, pèse auprès des décideurs politiques. Des interventions ont été organisées auprès des parlementaires, de la Commission européenne et aussi en France, auprès du ministère des Finances et du président de la République. L'European Digital Right reste très vigilante et mobilisée. En effet, les textes définitifs vont devoir définir les modalités de mise en œuvre de l'intelligence artificielle en Europe. Beaucoup reste à faire, mais une étape est franchie. C'est l'acceptation qu'il faut une régulation des technologies d'intelligence artificielle pour qu'elles soient conformes aux droits humains. Mais l'opposition entre cette nécessité de respect des droits humains et la recherche de profits financiers n'est pas éteinte, loin de là. C'est le combat à mener dans la durée avec des ressources et des compétences pour cela. Précisément, c'est tout l'intérêt, c'est toute l'utilité de cette alliance des sociétés civiles au plan européen, car cela permet d'avoir ces moyens, ces relais pour peser et faire valoir les droits humains.
Merci Alain. L'AJT du local s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci à Marion Rousseau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Alain de la Ligue des droits de l'homme et merci à toi Lucie d'être à mes côtés. Et si on rend l'antenne maintenant, c'est pour laisser place à de très belles émissions et la soirée de ce lundi, elle commence maintenant. Elle commencera comment, Lucie, dis-moi plutôt.
Elle commence à 19h avec Solénoïde parce que le lundi, on y va tranquille. L'émission vous propose des musiques planantes et pas banales.
Et alors, ça continue à 20h, je crois.
Exactement, avec la discothèque de Marisol qu'on a eu le plaisir d'accueillir en stage à l'autre radio. On va donc se plonger dans son univers musical.
Et on ne s'arrête pas sur un si beau programme.
Oui, à 21h, c'est aléatoire.
Rêver, c'est un peu ce que ça me fait la programmation d'aujourd'hui, Lucie.
Tu en fais toujours beaucoup en début de semaine, Margot.
Je vais dire au revoir alors et garder un peu d'enthousiasme pour demain. Amis auditeuristes, merci d'avoir été à notre écoute. On se dit à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. D'ailleurs, nous serons en compagnie de Sébastien Arzac de l'association L214. Il nous parlera des 2 enquêtes menées en Mayenne, de la pétition signée par plus de 140 000 citoyens et du rassemblement qui a eu lieu devant la préfecture le 24 janvier. Prenez soin de vous, épargnez-vous, la semaine ne fait que commencer. En tout cas, tout autour de vous, s'il vous plaît, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.